Donc, on va commencer cette table ronde. Juste pour nos amis étrangers, je voudrais juste faire un très rapide résumé de la situation en France. Donc, en France, la biologie médicale inclut la biologie médicale délocalisée, c'est-à-dire les cas où la phase analytique est réalisée en dehors du laboratoire. Et cette biologie délocalisée est réalisée sous la responsabilité du biologiste, avec quelques petites spécificités sur la validation. Mais bon, en gros, on se retrouve en France à faire la même chose dans l'unité de soins que dans le laboratoire, avec, et c'est l'enjeu de la question posée aujourd'hui, avec une accréditation obligatoire, selon la norme 22870, qui, comme vous le savez, n'est qu'un complément de la 1589 pour la biologie délocalisée. Voilà, donc le challenge en France sera de réaliser un 100% d'accréditation 1589, mais aussi 22870 avant novembre 2020. C'est ce qui est écrit actuellement. Donc ça pose un certain nombre de questions et d'inquiétudes. Donc on va faire un petit peu le tour de ces questions. Et je vais commencer par passer la parole donc, à ma voisine Hélène May, qui dirige la section santé humaine du COFRAC, qui va un petit peu nous parler de ce qui est prévu pour absorber cette nouvelle vague d'accréditation.
Bonjour à tous, merci Michel de cette invitation. Alors, dans le cadre notre démarche d'amélioration continue, on a entamé, sous l'égide du comité de section, dont le président est à ma gauche, une réflexion sur l'optimisation du processus d'accréditation, spécifiquement pour les EBMD. Il y a plusieurs donc, axes hein, qui ont été développés. D'abord, jusqu'à présent, en termes de lignes de portée, hein, il y avait effectivement 6 lignes de portée qui n'étaient pas forcément bien définies et qui complexifiaient hein, les démarches d'accréditation pour les EBMD. Et donc là, la proposition qui a été faite et retenue, validée, c'est de passer à 4 lignes de portée, une ligne en biochimie, une ligne en hématocytologie, une ligne en hémostase et une ligne en microbiologie. Donc, ce qui permettra au laboratoire de mieux utiliser en fait, la flexibilité hein, de ses portées, de procéder par ajout. Le deuxième axe, c'était les modalités d'évaluation. Évidemment, il n'a jamais été question d'évaluer automate par automate, équipement par de BMD, évidemment. En revanche, on avait une approche qui s'arrêter en fait au service clinique, c'est-à-dire qu'on allait systématiquement, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, évaluer chaque service clinique. Donc le laboratoire avait à présenter hein, étape par étape l'ensemble de ces services cliniques. Finalement, l'expérience de ces dernières années, le retour d'expérience avec aujourd'hui 22 laboratoires hein, de biologie médicale qui sont accrédités pour des examens de biologie médicale délocalisée, dont la moitié à peu près hein, de laboratoires hospitaliers, nous a conduit à remonter en fait d'un cran et à considérer que finalement le pivot hein, dans l'organisation était plutôt au niveau du pôle clinique. C'est-à-dire ces pôles cliniques qui regroupent en fait hein, tous les services cliniques dans une approche, je dirais, coordonnée en fait hein, une organisation commune pour la prise en charge du patient. Et donc finalement le fait de visiter un service clinique seulement au sein du pôle permettait d'avoir une bonne image hein, de l'organisation du pôle et de pouvoir octroyer l'accréditation pour le pôle. Ce qui fait que ça fait, en termes de charge d'évaluation, quelque chose qui sera forcément moindre et beaucoup plus optimisé. Autrement dit, pour faire simple, un laboratoire hein, qui présente au moins un service clinique sur le pôle, hein, sur un des pôles cliniques, en présentant les différentes lignes de portée dont il a besoin, pourra après procéder par ajout pour ajouter tous les services cliniques au rythme hein, qu'il souhaitera et tous les examens qui correspondent à ces lignes de portée au rythme aussi où il le souhaitera. Hein, donc évidemment, ce qui constituera une extension, c'est l'ajout d'un nouveau pôle clinique ou évidemment, hein, pour ceux qui travaillent avec de multiples établissements, l'ajout de nouveaux établissements de santé. Donc ça, on devrait permettre d'avoir voilà, cette optimisation. Et puis, dernier point aussi sur l'optimisation, en termes de durée d'évaluation, on avait des durées standardisées qu'on a trouvées voilà, pas forcément adaptées, donc on est revenu aussi dessus. L'idée, c'est d'avoir une demi-journée qui est consacrée à l'évaluation du pilotage par le laboratoire de cette activité, hein, donc du système de management de la qualité, d'avoir la visite d'un service clinique par l'équipe d'évaluation, donc globalement 2 heures, et puis après d'avoir l'évaluateur technique qui peut procéder hein, à la visite des autres services cliniques, des autres pôles, hein, sur une durée de 2 heures, ce qui nous a paru optimum. En parallèle de ça, on a aussi retravaillé sur tout ce qui est formation, harmonisation des évaluateurs, en développant en fait un module spécifique pour l'évaluation selon la 22870. Et je profite d'avoir le micro, et quelques minutes encore, pour faire évidemment, vous en doutez, un appel à candidature. Donc par rapport à ce qui nous attend, hein, par rapport aux demandes qui vont arriver sur la biologie délocalisée, on a là aussi un besoin donc, d'évaluateurs. Donc n'hésitez pas à venir. On a ce module hein, dédié sur la biologie délocalisée qui peut aussi vous intéresser, ne serait-ce que dans la conduite de vos démarches personnelles pour vos laboratoires. C'est du gagnant-gagnant. Et donc je terminerai juste par vous dire que sur toutes ces modalités que je viens de vous décrire, elles vont être publiées très rapidement dans les jours qui viennent. Et donc on essaiera de communiquer, d'accompagner, surtout si vous avez des questions autour de ces modalités, n'hésitez pas à contacter vos pilotes habituels.
Merci beaucoup Hélène. Alors.
Bien, donc... Comme l'a rappelé gentiment Hélène, c'est-à-dire que j'ai la chance de pouvoir présider le comité de section au niveau du COFRAC. Au niveau de ce comité, simplement une précision, c'est qu'on a souhaité avoir une coordination complète à travers les différentes sensibilités et à travers les différents collèges. Donc on travaille en toute concertation. C'est, comme vous le savez, c'est Alain Sureau qui est le vice-président de ce comité. Et nous avons, je dirais, nous travaillons en toute confiance et collaboration. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je voudrais quand même reprendre, parce que j'ai démarqué Fédération Hospitalière de France pour cette table ronde, et on voit très bien qu'à travers, je dirais, ce colloque, on ne peut remercier que l'équipe qui a organisé cette manifestation, je dirais, il y a beaucoup de gens qui se sont investis dans la mise en place et le contrôle et le management de la biologie délocalisée, qui est un terme qui me gêne de plus en plus, parce que qui dit délocalisé dit structure, et c'est un peu gênant. Et c'est vrai que lorsqu'on travaille à l'international, on voit beaucoup plus le soin critique et, je dirais, la qualité du service rendu aux patients, je dirais, où là, véritablement, on dépasse les murs et les frontières. Ça, c'est quand même intéressant. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on doit faire face, je dirais, à des restructurations territoriales très importantes, avec la mise en place des GHT, si je parle des hôpitaux, et on a vu qu'il y a des expériences au CER qui n'est pas avec Clamcy. Alors je ne sais pas si lorsqu'on travaille bien, je dirais, sur OCR, on reçoit des fèves de Clamcy, parce qu'elles étaient très connues. Néanmoins, on voit quand même qu'il y a des expériences très innovantes qui sont mises en place. Le deuxième point, c'est que lorsqu'on regarde aussi l'évolution de la biologie médicale et de la médecine de laboratoire, on voit un développement absolument fantastique des nouvelles technologies. Et donc il va bien falloir, je dirais, être capable de maîtriser l'ensemble de ces techniques. Et sinon, si on ne le fait pas nous-mêmes en tant que biologiste, il y a d'autres personnes, je dirais, qui sont totalement à même d'utiliser ces outils sans avoir la capacité de contrôle et de management et d'efficience à travers, je dirais, la diffusion de ces différentes techniques. Là aussi, je pense qu'il faut bien comprendre qu'au niveau des GHT, on a à la fois une restructuration des plateaux techniques, je dirais, territoriaux, et là, c'est une chance aussi d'améliorer, je dirais, les rapports avec l'ensemble des partenaires. On a bien vu aussi à travers ces 2 jours qu'il y avait une capacité, je dirais, pour la biologie médicale de se positionner en termes, je dirais, de cœur de réseau, et ça c'est très important, d'améliorer la communication avec les cliniciens, mais pas que, avec l'ensemble des partenaires, je dirais, de santé, ça me paraît très important, et aussi de pouvoir avoir des relations renouvelées avec les différents partenaires industriels. C'est toujours, si on reprend l'expérience d'Auxerre, si on a vu aussi dans la dernière expérience sur Madrid, que les liens avec, je dirais, les industriels étaient des liens, je dirais, constructifs dans lesquels on pouvait avancer beaucoup plus. Là aussi, sur un dernier point, on a vu autour de ces 2 journées que la biologie délocalisée ne concernait pas que des analyses de biochimie stricto sensu. Et la conférence d'ouverture par Jacques Isopé a été absolument, je dirais, prodigieuse de nous montrer quand même qu'on pouvait aussi voir et envisager, je dirais, ce genre de déploiement d'organisation de manière opérationnelle. Il faut bien connaître Purpan et Rangueil, c'est quelque chose de très important et ça fait plaisir quand même qu'après quelques années, je dirais, on voit que ça fonctionne bien au niveau des CHU. Voilà ce que je voulais vous dire et je pense qu'on aura l'occasion de débattre d'une manière beaucoup plus précise.
Merci Bernard. François, ton avis.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien écoutez, un point de vue pour faire le pendant de ce que dit Bernard sur le système privé. Pas en tant que président du syndicat, mais plutôt en tant que directeur général de mon groupe. Évidemment, nous traitons 4200 patients jour. Nous avons des établissements de soins privés. Nous avons 2200 lits d'hospitalisation. Et la chose qui nous est arrivée, comme à beaucoup d'autres d'ailleurs, c'est que l'assurance maladie nous a réclamé 247 000 euros pour rembourser toutes les analyses de biologie délocalisée que nous faisions. Donc à partir de ce principe simple, dans lequel l'assurance maladie comprend que dans la nomenclature, il n'existe pas d'examen de biologie délocalisée dans le privé qui peuvent être remboursés, ça nous pose un énorme problème en termes de santé publique, de services de soins aux patients, et effectivement, aujourd'hui, dans ce qu'est l'esprit que veut la ministre de la loi, c'est-à-dire la prise en charge des soins d'urgence, la permanence des soins 24-24, et d'autre part, le soin non programmé. Donc on voit bien que dans cet esprit aujourd'hui, où on veut que le système libéral prenne en charge des patients pour trier un petit peu et en envoyer finalement dans les établissements de soins que ceux qui nécessitent vraiment, eh bien, il faut qu'on se dote de tous ces appareils et que donc on arrive à développer sur le terrain, évidemment, ces réponses pragmatiques, urgentes que nous faisions. Nous, pour notre principe, nous avons retiré tous nos appareils des blocs. Nous sommes obligés artificiellement de contrecarrer le COFRAC d'une certaine manière en ouvrant des plateaux techniques loin à côté de nos services d'urgence. Et donc c'est la seule manière que nous avons vue pour pouvoir facturer, en tout cas faire l'examen dans le laboratoire et ne pas considérer que c'est un examen délocalisé. Donc quand vous avez un appareil de gaz du sang qui est près d'un bloc mais qui appartient à un labo, c'est remboursé dans le cadre d'un gaz du sang, sinon autrement c'est considéré comme un jeu délocalisé. Donc il va falloir faire le ménage quand même, et puis qu'on soit clair en France, une bonne fois pour toutes, d'abord il n'y a pas que le système public qui prend en charge les urgences, il y a aussi le système privé, et nous travaillons main dans la main avec le CHU de Tours pour évidemment se répartir les patients quand le CHU est débordé, et donc nous voyons aussi qu'il nous faut ces outils aujourd'hui pour pouvoir régler un certain nombre de problèmes de santé, et donc là c'est un vrai sujet. Je peux vous dire que le directeur général de la CNAM a dit il y a 15 jours qu'effectivement il a reconnu que c'était un sujet prégnant, qu'il avait eu tort de ne pas le mettre sur la table depuis longtemps. Le problème, pour rebondir sur ce que j'ai vu tout à l'heure précédemment, c'est évidemment la rationalisation de ces examens, que vous mettez le doigt dans un engrenage, soit on le fait à tout le monde, on commence à le faire de façon systématique, et voyez les coûts que ça a engendré tout à l'heure. Nous, je vous rappelle que l'enveloppe privée est fermée jusqu'en 31 décembre 2019, et nous sommes contraints dans cette enveloppe de n'avoir aucun examen supplémentaire nouveau qui peut être inclus dedans. Donc c'est un véritable problème économique, il faut y réfléchir. En tout cas, aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir une valeur de B qui est calculée, qui rejoint les nôtres, parce que le 12 centimes du B dans le public qui traîne dans les livres blancs de l'Assemblée nationale et du Sénat commençait à m'énerver outrageusement. On voit que de toute façon, c'est un vrai coup, la biologie. La question, c'est comment on le dépense pour tous les Français, à quel prix, et comment on rend un service, aussi bien en campagne, pas forcément dans une grande ville, mais comment on rend un vrai service sur le terrain. Et je pense que les biologistes ont toute leur part à prendre.
Merci François. Je voudrais signaler que j'avais invité Monsieur Revel à cette table ronde et qu'il n'a pas souhaité venir donner l'avis de la CNAM, et c'est dommage.
Merci Michel. Alors, le thème de cette table ronde, elle est indissociable évidemment à l'urgence biologique, qui est actuellement la thématique centrale. Une, sinon la thématique centrale actuellement. On le voit notamment quand on entend les discours du président Macron, qui parle de l'embolisation des urgences. On le voit aussi quand on est interviewé par l'IGAS et l'IGF, l'Inspection Générale des Finances, qui vont sortir un rapport sur la biologie médicale. Donc on les a tous rencontrés. C'était une question qui revenait sans cesse, l'urgence, avec le regroupement actuel et l'augmentation des délais sur certains examens urgents, quelle est notre solution ? Le BMD, c'est une réponse. C'est une réponse et il faut qu'on s'en empare maintenant, puisqu'on est à un tournant. Si on ne s'en empare pas maintenant, c'est l'État qui peut nous faire basculer dans un système à l'allemande, puisque c'est quelque chose qui regarde de très près, où le biologiste est un peu moins indispensable, où il n'est pas nécessairement responsable des EBMD, et un système où c'est le prescripteur qui fait le prélèvement et l'analyse directement au cabinet, par exemple. Peut-être avec une baisse de la qualité. Merci d'ailleurs, oui, à Michel pour l'organisation de ce congrès sur ce thème-là, parce qu'il fallait qu'on en parle, et c'est important qu'on en parle maintenant, de la manière d'accréditer ces examens. Alors, l'accréditation des EBMD, c'est indispensable. On l'a vu dans toutes les présentations hier, aujourd'hui, c'est un système qu'il faut qu'on maîtrise. Il faut une accréditation, mais est-ce qu'elle doit porter sur 100% des examens, avec validation de méthode pour chacun? Bon, vous connaissez déjà la réponse. Non, les amis, il ne faut pas. On a déjà payé pour voir, on le sait. Ce n'est pas le 100% qui va nous permettre d'atteindre le top de la qualité. Il ne faut pas qu'on fasse la même erreur qu'en 2010. C'est lourd, c'est inadapté. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons, cette accréditation à 100% des examens, je précise bien des examens, c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a une suppression de certains automates d'urgence dans les sites périphériques. Ce n'est pas la seule, évidemment. Il y a aussi une réalité économique ou un besoin pour certains groupes de faire plus de profit. Mais ça va à l'encontre de l'intérêt du patient. Alors, qui a la solution? Qui a la clé? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est le biologiste qui a la clé. C'est le biologiste qui a la clé. Il est responsable. Il faut mettre en avant ses compétences sur le système qualité. Il faut faire confiance dans sa capacité à évaluer un automate. La validation de 10 examens sur le même automate, avec 10 validations de méthode, c'est peut-être pas nécessaire. Est-ce qu'on pourrait passer sur 100% de lignes de portée, 100% de sous-familles? En revanche, évidemment, il faut qu'il y ait un suivi rigoureux qui soit fait sur chacun des examens, avec des CQI, avec des EEQ, qu'il faut qu'on puisse contrôler là aussi de manière rigoureuse, puisque c'est ça qui nous permet de vérifier la justesse et la robustesse de l'automate dans le temps. C'est ça qui est important. Il faut également faire une étude de gestion des risques, notamment si on souhaite mettre en place des modalités d'assouplissement de corrélation, là aussi dans l'objectif de faciliter la mise en place de ces automates. Et puis le point critique des EBMD, ça je crois qu'on en avait pas mal parlé dans les différentes présentations, c'est l'habilitation du personnel. Tout le monde n'a pas forcément la même culture qualité que celle que l'on a nous actuellement. Et l'habilitation du personnel, on ne peut pas faire des économies de temps là-dessus. C'est compliqué, mais c'est vraiment un point critique. Et donc là-dessus, il faut qu'on soit rigoureux. Alors j'avais dit aussi à un autre congrès, il ne faut pas qu'on fasse avec la biologie médicale française comme ce qui avait été fait à Constantinople à l'époque, où les religieux byzantins discutaient et débattaient du sexe des anges alors que la cité était en flammes. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faciliter maintenant la mise en place des automates d'urgence pour les EBMD, mais j'ai envie de dire aussi pour les autres examens d'urgence classiques dans les différents sites périphériques, et donc passer sur un 100% des sous-familles, un 100% des lignes de portée. C'est quelque chose qui est discuté, qui est réfléchi encore à l'heure actuelle, pas nécessairement uniquement sur la 22870, également sur la 1589. Il faut qu'on libère les énergies pour répondre à cette seule question: comment apporter un meilleur soin à nos patients? Le biologiste a toutes les compétences requises, il doit conserver son rôle central dans les EBMD et dans l'urgence de manière générale, parce que si on ne répond pas à l'urgence dans chaque territoire, dans chaque clinique, dans chaque hôpital, dans chaque site périphérique, l'État trouvera d'autres solutions. Mais ce congrès, et encore merci pour l'organisation de ce congrès et toutes les présentations qu'on a pu lire et voir sur l'EBMD me permet de rester optimiste sur la capacité et notre capacité de gérer les urgences. Merci.
Merci Lionel. Carole, pour le SNBH.
Ouais, donc moi je vais m'exprimer par rapport aux hôpitaux. Je voulais juste répondre un petit peu à François par rapport au remboursement. La non-nomenclature des examens de biologie délocalisée, c'est qu'à l'hôpital, on se confronte aussi à ce problème pour nos patients qui passent par les services des urgences où est la biologie délocalisée et qui repartent, qui ne sont pas hospitalisés. Donc ces patients sont considérés comme des patients externes. Donc il faut dissocier, si on veut rentrer la biologie délocalisée dans notre activité, il ne faut pas que ces patients-là soient refacturés derrière. Donc c'est un une petite problématique, je dirais informatique, mais qui existe, il faut l'avoir dans la tête. Voilà. Donc on a vu effectivement au cours de ces deux journées l'importance et l'évolution, surtout 3 ans après le congrès de Versailles, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué au niveau de la biologie délocalisée. Cette biologie délocalisée, elle est donc indispensable, devenue indispensable à l'hôpital, que ce soit dans les services d'urgence ou dans des services de consultation en diabétologie, parce que les médecins ont besoin d'avoir des résultats en urgence pour les patients qu'ils ont devant eux en éducation thérapeutique. Donc on est confronté à de multiples demandes par nos médecins. Et il y a aussi, comme ça a déjà été dit, les groupements hospitaliers de territoire, où on retrouve des sites maintenant qui n'ont plus de biologie, comme c'est le cas qui a été présenté par l'équipe d'Auxerre, et qu'il faut donc encadrer par cette biologie-là. Ça demande une surcharge de travail pour le biologiste et l'équipe entière de biologistes, parce qu'on a vu que vous aviez récupéré du temps technicien, du temps biologiste, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et nos directions, je pense, ne sont pas toutes conscientes de ce problème-là, de cette prise en charge par les biologistes, de cette mise en place, et surtout n'est pas consciente de cette accréditation qui approche au galop. On doit tous s'organiser, je pense que tout le monde a commencé à le faire, avec des commissions de biologie dans lesquelles on doit intégrer nos directions, surtout les directions des soins infirmiers, intégrer les médecins utilisateurs, pour qu'ils aient conscience qu'on ne peut pas demander comme ça un automate de biologie délocalisé, et il faut qu'ils en connaissent les conséquences. Moi, je veux organiser des formations à la norme pour les médecins, pour les directrices des soins. Je pense que c'est quelque chose qui est très important de les sensibiliser. Maintenant, on est en 2018. Est-ce que ce n'est pas déjà un petit peu tard? Enfin, bon, les biologistes ont fait passer leur biologie traditionnelle. On n'est pas sûr d'arriver en 2020 à accréditer nos 100% de biologie traditionnelle. Et la 22870 par-dessus, je pense que beaucoup, c'est mon cas, retarde au maximum cette accréditation. Donc Hélène nous a donné quelques voies qui permettront peut-être d'alléger les choses. C'est vrai que les MOQ, quand on en a 600 dans certains CHU, c'est impossible. Donc effectivement, si c'est par pôle, ça va peut-être simplifier la chose. Il y avait d'autres choses. Je regarde un petit peu mes notes. La mise en place aussi d'un logiciel, d'un middleware, qui permettent de faciliter. Ça, on ne l'obtient pas comme ça. Il faut que la direction nous donne, qu'on le mette dans le plan d'équipement, que ce soit accepté. Et ça met aussi quelques années. Ça peut être déporté d'année en année. Sans ça, à mon avis, ce n'est pas possible. Voilà. On a vu quelques limites aussi analytiques par rapport à la biologie délocalisée qu'il faut maîtriser, et ça je n'ai pas la réponse. Le professeur Christol ne l'a pas eu non plus hier, sur tout ce qui est interférence. Vous avez proposé au CERF d'essayer de voir par rapport aux indices de l'automate, voilà. Mais bon, est-ce que c'est vraiment une solution 100% satisfaisante? J'en suis pas sûre. Voilà. Donc quelle est la solution d'ici 2020 face à toutes ces problématiques? Alors la solution, c'est qu'a dit Lionel, le biologiste doit être au centre de tout ça, mais surtout, il ne doit pas être tout seul. Il doit avoir sa direction, il doit avoir l'équipe de tous les soignants. Et s'il reste seul face à cette problématique, il ne s'en sortira pas.
Merci, Carole. Thierry Avelan pour la BAC.
Oui, alors moi juste je voudrais rebondir sur ce qui a été dit déjà avant, c'est-à-dire qu'on parle d'accréditation à 100% pour tous les examens. Finalement, il faut savoir à quoi ça sert, à quoi une accréditation sur un examen. On a entendu Lionel qui a bien décortiqué les contrôles internes, les contrôles externes, la maîtrise du processus, l'analyse de risque, etc. Et finalement, c'est exactement ça qu'il faut faire. On a tous peur d'une validation de méthode, par exemple, de tous les analyseurs. On a tous peur de ce genre de choses. Qu'est-ce que c'est qu'une vérification de méthode? C'est connaître et comprendre bien comment on va utiliser sa méthode. Donc c'est connaître les limites de la méthode. Une fois qu'on connaît les limites de la méthode, derrière, c'est l'interface avec les cliniciens, c'est l'interface avec les patients, c'est l'interface au pré-ana, au post-ana, etc., qui va faire tout l'environnement. Donc je pense qu'on a tort d'avoir peur de l'accréditation à 100%. Le tout est qu'entre nous, les biologistes, en plus c'est une évaluation par les biologistes aussi. Ce qu'il faut, c'est arriver à mettre le curseur au bon endroit pour savoir comment un test est maîtrisé, comment une méthode est maîtrisée dans un contexte particulier. Et au final, une fois qu'on arrive à ça, je pense que c'est tout à fait jouable. Le problème est de mettre vraiment le curseur au bon endroit. Donc nous, les biologistes, je rebondis aussi sur l'appel d'Hélène à être évaluateur. Moi, je suis évaluateur depuis très longtemps et je remarque que c'est très difficile d'arriver à mettre le curseur au bon endroit dans toutes les situations qu'on va rencontrer. Donc d'avoir des groupes de travail, d'avoir des gens qui viennent de différentes structures et de différents types d'exercices, c'est très important. Que les confrères discutent dans les groupes de travail du COFRAC, participent à toutes ces choses-là, c'est très important aussi à mon sens. Je pense qu'on pourra mettre le curseur au bon endroit en biologie médicale en France si on participe tous à le faire. Donc nous, dans notre association, on fait des groupes de travail, notamment on a fait cette année en microbiologie pour justement essayer d'harmoniser le comportement des évaluateurs, les exigences qu'il y a au niveau de la 1589, comment elles sont traduites en France, notamment par le COFRAC. Donc c'est très important que la profession finalement participe à sa propre prise en charge. Et je trouve, pour y participer moi depuis longtemps dans les différentes instances, qu'on pourrait être un peu plus présents, nous les bio, dans ces instances, justement pour arriver à ce que cette évaluation externe de notre travail et de notre capacité à soit faite dans des conditions raisonnables, c'est-à-dire celles qu'on a tous établies ensemble. Donc je renforce l'appel d'Hélène May à être évaluateur, à participer au groupe de travail, etc. C'est très important pour notre propre profession et pour nous-mêmes, donc, dans notre mode d'exercice. Après, je pense qu'on peut aller vers une accréditation à 100% sous cette réserve-là. Si on commence à mettre les mêmes exigences sur le BMD que ce qu'on va mettre sur un analyseur au labo, ça va évidemment être compliqué. On s'aperçoit que les EBMD, ça a été dit par quasiment tout le monde aujourd'hui, et je suis désolé, j'étais pas là hier. Mais vraiment, la problématique, c'est les interfaces. C'est les interfaces avec les préleveurs, c'est les interfaces avec les cliniciens, c'est les interfaces avec la personne qui va passer le test ou qui ne va pas passer le test et qui va respecter ou pas les spécifications, la formation, etc. C'est le turnover du personnel. Donc finalement, des fois, je trouve qu'on mélange un petit peu tout et on met sur le dos d'une volonté de l'État de nous obliger à nous accréditer à 100%. Certaines problématiques qui nous viennent d'autres types de réorganisation, en fait, c'est pas ça le problème vraiment, c'est qu'on nous a en même temps diminué des ressources, on nous diminue nos dotations, etc. Et finalement, la problématique, elle vient aussi de là. Donc on peut pas avoir un seul bouc émissaire, je crois pas. Et je crois qu'en travaillant dans ce sens-là, c'est-à-dire en essayant vraiment de gérer des interfaces et de s'harmoniser entre nous, on arrivera à faire ce que nous demande l'État. Ça va être compliqué, effectivement, dans les 2 ans qui nous restent, de le faire pour tout le monde. Mais après, encore une fois, une validation de méthode, une maîtrise de méthode, c'est connaître les limites de sa méthode et savoir comment je vais les maîtriser. Donc en passant sur l'analyse de risque, en ayant ce type de réflexion, on peut aussi alléger notre processus de maîtrise, finalement, et donc optimiser notre labo. Dernier truc, il y a beaucoup de labos qui sont arrivés il n'y a pas très très longtemps à l'accréditation, puisqu'ils sont arrivés là, avec le couteau sous la gorge et l'obligation de l'État. C'est vrai qu'en ayant très peu de temps, on a beaucoup de mal à appréhender tout ça, et il nous faut plusieurs années, moi c'est ce qui m'est arrivé en ayant commencé il y a très longtemps, il faut plusieurs années pour optimiser son système, donc on passe tous, et il y a beaucoup de gens qui sont dans cette phase-là en ce moment, par une phase où on a double peine, c'est-à-dire énormément de travail, modification des procédures, il faut expliquer à tout le personnel, c'est pas facile non plus qu'on va changer la vie de tout le monde, et on n'a pas encore le bénéfice de tout ça. Donc là, les 3-4 premières années d'accréditation, ceux qui le vivent que depuis pas très longtemps, verront qu'après ça s'optimise, après on commence à avoir une gestion qui est beaucoup moins lourde. Donc je crois que c'est un système de toute façon qui sauvegarde un petit peu notre profession. Hein. Nous, je pense qu'on sert à quelque chose et l'accréditation nous permet de montrer notre valeur ajoutée.
Merci Thierry. Jean-Gérard Gobert, FNSPBHU.
La profession des biologistes médicaux, les biologistes médicaux ont fait depuis 8 ans un énorme effort pour, et vous le savez tous, pour faire avancer cette accréditation qui est la qualité prouvée. Elle est pratiquement terminée, cette accréditation, dans tous les laboratoires de France et d'outre-mer. Et on peut considérer quand même que la biologie médicale française, avec cette qualité prouvée, en ce moment, est la meilleure du monde. D'ici 2020, il va falloir finaliser la transformation de l'accréditation qui est d'origine industrielle en l'humanisant complètement. Il faudra qu'elle soit complètement humanisée. À part ça, la biologie délocalisée, comme pour la 1589, doit rester sous le contrôle des biologistes médicaux. On a parlé de l'accréditation à 100% des examens. Il y a des discussions à avoir encore pour finaliser ce que l'on met dans ce 100%, avec des discussions entre les représentants gouvernementaux, les représentants du COFRAC et les représentants de la biologie médicale. Le fait d'arriver à cette accréditation et de la finaliser va libérer du temps. Ce temps, on en a énormément besoin en biologie médicale. Ça va permettre de donner un peu plus facilement, parce que ce gain de temps n'est pas encore suffisant, on va le voir, ça va permettre de donner au COFRAC des évaluateurs techniques dont certains sont présents ici, et il y en a besoin pour que nous, les biologistes médicaux, nous soyons évalués par nos pairs, P-A-I-R-S, par nos pairs. Et donc, il va falloir du temps. Il va falloir aussi du temps parce que il faut se rapprocher avec la médicalisation de nos collègues cliniciens et des patients pour avoir une interprétation de résultats très fine concernant un dossier de patient. On appelle ça de la médecine personnalisée. Il y en a besoin et là encore, il va falloir du temps pour mettre en place des échanges pratiquement incessants, quotidiens, pluricotidiens, entre les cliniciens qui vont nous donner leur renseignement clinique et le traitement, et nous qui donnons l'interprétation des résultats. Et c'est cette synthèse-là qui fait qu'on peut avoir, on peut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, dans le diagnostic concernant un patient. Un patient. À part ça, il en manquera aussi du temps parce qu'il y a la réglementation de la protection des données qui est en train d'arriver. Il y a les rapports ville-hôpital auxquels il faut qu'on consacre du temps avec les fameuses commissions pluriprofessionnelles de territoriales de santé. Il y a beaucoup de choses à voir et là aussi, encore, il faudra du temps. Alors, ce temps, il faut que la profession réclame plus d'internes, médecins et pharmaciens pour qu'il y ait plus de biologistes médicaux. Il y a besoin d'avoir plus de biologistes médicaux pour qu'on soit présent également dans tous les sites, NSIT, voilà, il y en a besoin. À part ça, la population, il ne faut pas oublier que notre population est vieillissante, que ce sont surtout maintenant, il faut s'occuper des maladies chroniques, il faut s'occuper de l'ambulatoire, beaucoup plus important. Il faut s'occuper d'hospitalisations plus courtes. Donc tout ça va réclamer un surcroît de travail et va réclamer donc beaucoup plus de temps. Et dernière chose, il faut que du point de vue de la formation, nous allions plus. On a été formé sur des pathologies aiguës. Il faut qu'on aille beaucoup plus vers du chronique et du polypathologique parce qu'on en a besoin du point de vue des formations. Et il faut faire rentrer dans nos universités des patients experts qui nous apporteront, de leur point de vue, beaucoup d'informations et beaucoup de choses à connaître.
Merci, Jean-Gérard.
Une seconde. Il faut que nous restions tous les sentinelles de l'organisation de notre santé publique qui doit être exemplaire. Et cela, on ne peut le faire, et je vais faire plaisir à mon ami Bernard Gouget, on ne peut le faire plaisir que si on est tous ensemble. Tous ensemble. Tous ensemble. Tous ensemble.
Merci, Didier. Avant de donner la parole à la salle pour quelques questions, je voudrais juste faire un petit commentaire personnel au sujet du périmètre de la biologie délocalisée qui est actuellement bien défini, mais peut-être pas en fonction des réels besoins. On voit bien qu'il pourrait y avoir des expérimentations en dehors du cadre qui sont intéressantes, qui j'espère vont se développer dans les territoires. Je pense notamment à un certain nombre de déserts médicaux où on parle de télémédecine, mais en pratique, il faudrait que le biologiste médical soit vraiment sur le terrain, même si c'est interdit sur le papier. Je pense aux EHPAD, aux lieux particuliers comme les hélicoptères, les bateaux. On a vu plusieurs tentatives dans pas mal d'endroits. Les voitures de pompiers qui ne sont pas médicalisées. Enfin, ce qui ne correspond pas exactement au texte sur les lieux d'exercice. Je pense qu'il y a des intérêts pour les patients à explorer. Il faut que les biologistes se lancent dessus. Parce que sinon, si ce n'est pas les biologistes qui s'en occupent, ce sera, comme on le disait tout à l'heure, d'autres personnes. Ce ne sera pas forcément mieux. Il y a aussi, ça c'est l'arrêté de 2014 sur les lieux et les personnes. On voit bien qu'on a vu hier la créatinine dans les services d'imagerie, c'est utile. Les manipulateurs radio n'ont pas le droit de faire de la biologie délocalisée. Bon, peut-être un oubli qu'il faudrait peut-être qu'on répare. Des choses comme ça. Et puis un petit mot sur les hémo-Q. Je pense qu'il y a quelque chose à faire aussi avec les hémoglobines capillaires. Je ne dis pas les hémoglobines veineuses, mais les hémoglobines capillaires, ce n'est pas sûr que ce soit vraiment possible de maîtriser ça. Il y en a trop, c'est opérateur dépendant. C'est un peu comme la glycémie capillaire. Donc voilà, il faut que les biologistes y réfléchissent sur l'évolution du périmètre, des lieux, des personnes et des examens qui ne sont pas ou qui sont dans le périmètre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, alors donc les questions, voilà, il y en a plusieurs. On va faire peut-être 4 ou 5 questions. On va essayer d'être assez bref, s'il vous plaît. Alors.
Je sors de l'ombre. J'aime bien la lumière, tu sais. Donc, merci pour ces interventions. D'une grande diversité, hein, Jean-Gérard, tous unis, tous ensemble, tous pareils. C'est du déclaratif, je ne suis pas sûr que ça corresponde à une réalité tant les forces sont centrifuges. Et je crois que des fois, c'est mieux de le dire que de faire semblant à chercher des faux consensus. Ça, c'est de façon générale, tout en appréciant ton action qui est très fédératrice, c'est aussi important. Ensuite, moi, je voudrais qu'on regarde un peu la réalité en face. Et la réalité, elle est complexe. D'un côté, il y a eu cette enquête du SNBH qui m'a vraiment marqué et qui montre la souffrance des biologistes médicaux, le manque de reconnaissance dans notre travail, des burn-out, etc., etc. Et ça, c'est une réalité. Ensuite, je vais finir par montrer que je suis d'accord avec personne. Je suis désolé, cher jeune collègue, mais le délocaliser, parce qu'il est délocalisé au niveau de la qualité qui est notre cœur de métier, c'est 100%. Il n'est pas question que sur un site, un dosage, etc., on ne le fasse pas accréditer. Et puis, en revanche, on peut discuter. Alors, j'ai oublié de dire, beaucoup le savent, je dirige le laboratoire à Cochin, je suis hospitalo-universitaire, professeur à Paris-Descartes, et j'ai la particularité, c'est mon petit jardin secret, d'être responsable de l'EBMD de mon groupe hospitalier. Et ça me plaît beaucoup. En revanche, on a eu la discussion autour des laboratoires de référence. Je ne suis absolument pas d'accord qu'on vienne nous demander, nous montrer dans des domaines où on est leader mondial de ces dosages. C'est du temps perdu pour tout le monde et de toute façon, on ne trouvera pas d'évaluateur qui est capable de nous évaluer. Et puis, donc vous voyez une position, hein, la qualité au centre de notre métier, oui, et surtout dans le délocalisé. Et puis ensuite, chère madame, le COFRAC. Vous ne renoncez pas, hein. C'est la méthode Coué, et pourtant les faits, ils montrent que bah, ça ne se passe pas. Et pourquoi ça ne se passe pas? C'est qu'on n'a pas envie de le faire. C'est que déjà, la qualité chez nous, elle prend tellement de temps, si on veut se donner. Parce que si vous voulez faire une mission utile, et qu'on commence à discuter, et par rapport à l'état d'esprit des biologistes, il faudrait qu'on arrête de nous tondre la laine sur le dos, et en permanence, et là je suis d'accord avec Jean-Gérard, on nous retire des moyens.
moins d'internes, moins d'assistants, moins de péage, moins de tech, moins de tout. Et ça, c'est insupportable. Et je peux rajouter des chiffres par rapport à ceux des hôpitaux généraux. On assiste à quelque chose qui est très inquiétant. C'est la fuite de nos élites. C'est-à-dire, pour ce que je connais, la PHP, beaucoup de chefs de service qui n'ont même pas l'intention d'aller à 65 ans et vont s'en trouver aucun qui iront à 67 ans. Et puis, on parle des postes, de la biologie du futur, de notre indispensabilité. J'en suis bien persuadé, on voit ce que peut être la biologie dans d'autres pays. Mais ils sont où, nos jeunes? Ils sont où? Ils sont même plus dans le privé, ils sont plus nulle part. Je me demande où ils sont, les internes. On trouve personne sur nos postes. Donc, moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Mais il faudrait qu'au ministère, au COFRAC, il commence à y avoir une réflexion sur pourquoi on est dans la situation où on est et pourquoi les choses ne se font qu'avec finalement un nombre très limité de personnes ayant la bonne volonté pour faire avancer le système. Voilà, je ne suis pas sûr que ma contribution soit très positive, mais je pense que je traduis l'état d'esprit d'un certain nombre de collègues.
Merci, Luc.
Oui. Bonjour, merci pour cette intervention. Donc, je suis Agnès Paul, je suis biologiste à l'hôpital de Périgueux. Et donc, je partage le vœu pieux de Jean Gérard d'avoir des internes et du personnel, mais c'est vrai que sur le terrain, la réalité est différente. Et surtout, quand on a des administratifs qui se basent sur une base d'Angers et un aspect économique, enfin purement économique, avec un prix du B. On n'a aucune valorisation sur nos travails de pertinence des soins. On n'a aucune valorisation sur tout notre travail hors presse-bouton, c'est-à-dire valider simplement nos analyses au quotidien. Et je pense qu'il est là le problème, c'est que tous nos administratifs, enfin du point de vue hospitalier, ils se basent uniquement sur ça pour comparer les différents labos, que ce soit au niveau privé, au niveau public. Et je pense qu'il faut qu'on travaille aussi sur cette comparaison qui nous dessert, parce que du coup, tout notre travail en amont de dialogue avec les cliniciens, il n'est pas valorisé, quoi. On travaille souvent sur notre temps personnel, on fait des journées pas possibles pour essayer justement d'optimiser ça, mais on n'y arrive plus parce que l'épuisement professionnel, il est là, quoi. Et je l'ai vécu, donc je sais de quoi je parle. Donc, ce que j'attends, c'est qu'on travaille sur ça, justement. Et puis, sur le 100%, je partage un peu l'avis de Luc Sinobert. La biologie des locs, elle est en plein développement. Et parfois, les performances, elles ne sont pas forcément là. Et donc, on a besoin, justement, d'un suivi de ces fournisseurs qui émergent avec des dispositifs qui ne sont pas forcément... éprouvé, parce qu'il n'y en a pas non plus pléthore sur le territoire. C'est à discuter. Moi, mon point de vue aussi, c'est qu'au quotidien, on fait de la surqualité. On se base à faire des CV hyper pertinents, enfin, hyper bas, pour des paramètres qui, finalement, pour les cliniciens, c'est pas qu'ils n'ont pas d'importance, mais si on fait 5 fois la normale d'une transa et qu'on doit avoir un CV à 2%, enfin, je vois pas l'intérêt. Donc, je pense. Alors, donc là, je rejoins aussi le fait de travailler sur le terrain et de refaire des référentiels. Ces référentiels, ils manquent. Mais nous, on a la tête dans le guidon et on a du mal justement à faire des comités de travail, de faire de l'harmonisation. Donc là, une problématique, c'est que on a que 24 heures dans une journée, qu'on peut pas tout faire et qu'on manque cruellement de gens, de temps, et qu'il faut que les administratifs ils comprennent que pour faire, il faut qu'on puisse être plus, quoi. Voilà. Ah si, une autre chose. Je ne partage pas l'avis de Luc sur le COFRAC. Enfin, on fait ce qu'on peut. Et c'est les administratifs, enfin, c'est le ministère, la DGOS, c'est les référentiels qu'ils utilisent pour nous comparer, qui aussi nous mettent en défaut, quoi.
le COFRAC, je suis d'accord avec tout le monde qu'il faut qu'on revoie aussi les attitudes, être plus dans la dynamique de valoriser le travail qui est fait et pas dire, voilà, vous êtes puni, enfin, vous avez un écart. C'est pas je suis d'accord que la qualité, c'est pas ça, mais malheureusement, c'est ce qu'on subit, quoi. Il y a un rapport de force entre l'auditeur et finalement nous. On n'a pas forcément la force et le courage de répondre face aux écarts. Et ben c'est ce qu'on attend, quoi, qui nous valorise le travail qu'on a fait, pour nous dire, ben voilà, vous avancez, mais on arrivera à la prochaine étape, quoi. Je pense qu'on est franco-français, c'est jusqu'au boutisme, quoi. Il faut qu'on soit parfait tout de suite, et ça, on peut pas y arriver. Voilà. Merci.
Juste une chose, on voit bien qu'on est à la croisée des chemins, puisque en fait, dans l'esprit du législateur, à l'époque, en 2013, pour l'ordonnance sur la biologie, c'était un 100% pour s'apporter une garantie à l'État que le laboratoire qui décidait de faire des examens dans tel domaine ou tel domaine puisse apporter sa garantie totale. Et on voit bien aujourd'hui que le biais entre l'esprit du législateur qui, lui, voulait une garantie du laboratoire parce qu'on nous avait montré du doigt dans le rapport Lalande comme quoi on créait des morts en France, alors que 99% des biologistes travaillaient très bien. Donc on revient en fait à une différence aujourd'hui, c'est que l'appréciation que peut faire le COTRAC de nos examens est différente. Entre législateur qui veut ce soi-disant 100% et pour lequel nous avons des discussions sans fin, et de l'autre côté le COFRAC qui voit en fait que le laboratoire, il l'habilite pour des compétences, pour quelque chose qu'il va faire dans un domaine précis. Et là, on voit, là, je rejoins les réflexions de notre collègue hospitalier, effectivement, dans certains domaines, il y a quelques laboratoires qui ne sont que l'unique laboratoire, et donc, évidemment, évaluer ces laboratoires, ça pose une réelle difficulté. Ces questions-là ont été soulevées de toute façon, mais la vraie question qui va se poser, je prends l'exemple d'un 100%. Moi, dans mon labo, il y a des examens que je transmets. Si je transmets un laboratoire qui n'a pas cette analyse accréditée, est-ce que je fais, parce que je fais le pré- et le post-analytique à 100%, mon labo est dit à 100%? Non, puisque l'analyse, la partie analytique, elle va être transmise à un labo qui, lui, n'a pas forcément son accréditation sur cette partie analytique. Donc, moi, je ne suis pas accrédité théoriquement à 100%. On a posé la question au DGS. Bon, on va voir, on réfléchit. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, quand on pousse les choses au fond, on voit bien que toutes les réponses ne sont pas là. Donc la question aujourd'hui qui nous est posée, elle est simple. Aujourd'hui, est-ce que nous, les groupes privés, cherchent à se débarrasser d'examens trop encombrants, difficiles à faire, et comme ça ils seront à 100%? Bon, on peut le considérer, on le voit déjà arriver. Je vous rappelle quand même qu'un petit article qui me gêne dans la loi, c'est que dans le privé, ça ne concerne pas le public, mais dans le privé, vous pouvez ouvrir des sites de façon déclarative, non contrôlée par l'ARS, à partir du moment où vous êtes à 100%. Imaginez le Far West que ça va être en 2020. Le Far West. Quand vous pensez que les pharmaciens commencent à demander à faire la phase pré-analytique, d'officine, j'entends bien. Et donc on voit bien qu'on arrive sur des sites de laboratoires qui sont uniquement des laboratoires de pré-analytique et non plus de post. Puisque le biologiste, il y a longtemps que chez nous, on a centralisé nos signatures, nos validations, etc. Vous imaginez bien, on avance, on ne va pas rester arrière. Donc la question qui est posée dans notre territoire, et c'est que là, je préférerais à la limite avoir de la biologie délocalisée, remboursée, être capable de répondre sur les territoires en temps réel, contrôlée par des biologistes, effectivement, mais qu'on n'ouvre pas ces succursales dans tous les sens. Parce que vous allez avoir des choses pas possibles qui vont arriver en 2020. Je vous préviens, le public, vous allez regarder tout ce qui va se passer sur le terrain privé. Ça va être une catastrophe. Donc la question qui est posée, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut pour le niveau d'accréditation, pour reconnaître une compétence dans un domaine? Je pense que des gens qui sont leaders mondiaux dans un secteur, la compétence, elle devrait être acquise. Enfin, je veux dire, il n'y a pas quand même des choses à régler. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut trouver les moyens simples d'arriver à convaincre le législateur d'avoir peut-être une modification de la loi, mais je vous rappelle que pour modifier une loi, il faut une autre loi. Et des lois de santé, Mme Buzyn a dit qu'il n'y en aurait plus. Donc la question, elle est posée quand même sur la table. Donc on voit que ce n'est pas si simple. Mais rappelez-vous, l'esprit du législateur, c'est simplement de se conforter. Voilà, en gros, quelqu'un qui faisait de l'analyse d'urine albumine-suc, il fallait qu'il soit accrédité à 100%, quoi, je résume. Quoi. Donc c'était ça, à l'époque, l'esprit du rapporteur. Donc c'est vraiment par rapport à cela. Et le COFRAC réaffirme, je pense qu'Hélène ne pourra pas me contredire, que ce n'est pas à lui de contrôler à 100%. Lui, il ne contrôle pas le pourcentage, le COFRAC. Il contrôle des compétences, des lignes de portée, il ne contrôle pas le pourcentage. Le seul moment où vous avez un pourcentage, c'est dans Biomed, ce fameux logiciel qui appartient au ministère, qui devrait normalement être transparent, mais qui ne l'est pas, et qui mesure le nombre d'examens que vous déclarez à 100% en accrédité, qui vous calcule votre pourcentage. C'est le seul endroit en France où on sait normalement, chacun d'entre vous, à quel pourcentage vous en êtes. Et c'est déclaratif. Il n'y a pas de contrôle du tout a posteriori pour voir si c'est vrai. Donc il faut bien comprendre dans quel cas nous sommes. Et c'est dans ce cadre-là qu'on doit inclure tout ce que Michel disait, et ça je suis d'accord, tous les champs sur lesquels aujourd'hui nous avons la possibilité que le biologiste donne sa plus-value. Et c'est là qu'il y a une vraie réflexion dans la stratégie de transformation du système de santé. Vous avez peut-être entendu parler de cet acronyme STSS. Et c'est dans cette STS, il y a 5 pilotes qui sont programmés, dont sur l'efficience des soins, et chez nous, évidemment, la rémunération, puisque c'est un sujet qui est sur la table, puisqu'on ne veut plus rémunérer à l'acte, on veut rémunérer à l'épisode de soins, à la prise en charge de la pathologie chronique, et voir aussi, à ce moment-là, pour répondre à madame, effectivement, quelle plus-value nous amenons, et peut-être qu'un jour, on aura un acte qui nous permettra de justifier notre plus-value intellectuelle et nos études et l'apport que nous faisons auprès des patients et des médecins.
Merci beaucoup, François. Bon, on a un peu dépassé, donc on va clore cette session. Je vous remercie tous pour votre participation. Juste, si vous me donnez 5 minutes pour une petite conclusion. Merci à tous. En tout cas, j'espère que vous aurez pu, au cours de ces 3 sessions, échanger autour de la biologie d'urgence. Comme je le disais hier, mais je crois qu'on est tous d'accord, il faut prendre les choses dans le bon sens. On part bien de la clinique, ensuite on regarde l'analytique et le biologique, et ensuite on regarde l'organisation et la qualité, et ce n'est pas un autre ordre qu'on doit suivre. Sur le plan de la clinique, vous avez pu constater hier une accélération et une diversification des besoins cliniques depuis quelques années, et une importance croissante aussi des aspects médico-économiques globaux. On n'est plus sur simplement combien ça coûte au laboratoire, mais qu'est-ce que ça rapporte sur l'ensemble de la filière de soins. Donc on a vu, on a discuté de l'approche syndromique en microbiologie, de la gestion des transfusions et un gros enjeu médico-économique avec les tests de coagulation globale, de la suivi des épidémies saisonnières, des spécificités pédiatriques, de la détection et du suivi des insuffisances rénales en radio, dans les services d'urgence. On voit bien qu'il y a plein de champs où il y a vraiment des besoins, il faut qu'on y soit. Deuxièmement, la technologie progresse, elle nous aide, et il faut qu'on accompagne les cliniciens dans cette voie. On a vu l'exemple du suivi de l'anticoagulation dans les dialyses, en réanimation au bloc, l'optimisation de la connectivité sur un panel très important de glucomètres. C'est une expérience impressionnante de Bordeaux. Et d'ailleurs, si Madame Beauvieux est là, je voudrais juste lui dire... Elle a fait 99,9% du travail. Je ne comprends pas pourquoi elle ne veut pas être le premier laboratoire accrédité 22870 à 100% sur les glucomètres, parce qu'elle me paraît bien partie pour. Ensuite, troisième point, on a vu ce matin que la biologie est délocalisée à sa place au cœur de la biologie d'urgence. On a vu des exemples qui ont montré que de la forêt primaire à l'Hôtel Dieu de Paris, il y a encore de nombreuses difficultés à régler. C'est assez marrant de voir qu'il y a autant de difficultés dans la forêt que sur l'île de la Cité. Mais quand même, après, on a vu aussi des solutions qui sont très bien maîtrisées. Je crois qu'il faut qu'on avance sur ça, dans la mesure où notre objectif, ce n'est pas 100%. C'est qu'il est bien démontré que l'activité de biologie délocalisée, c'est une activité à risque pour le patient, au même titre que le pré-analytique. Donc, il faut porter notre effort de maîtrise là où il y a des risques, c'est tout. Ce n'est pas une question de texte, c'est une question de sécurité patient. On le voit avec les glucomètres, par exemple. Donc voilà, on a vu que les situations de maîtrise, elles existent de plus en plus. Il y a des solutions au sein des GHT. On a vu un exemple très réussi en Espagne qui montre qu'on n'est pas seul sur cette voie, qui montre que sur un mode volontaire, il y a des hôpitaux à l'étranger européens qui arrivent à parfaitement maîtriser ça. Et donc, je crois que c'est une voie qui va au-delà de la France, en Europe en tout cas. Les États-Unis étant sur un tout autre système, mais c'est un système de financement qui n'a rien à voir. Voilà, donc... Ensuite, cette table ronde a permis de montrer que notre challenge en France l'accréditation à 100%, ça reste quand même une question non résolue. Je pense que les 3 années à venir seront source de nombreux changements du métier, surtout en termes de biologie d'urgence. On a bien vu qu'il y a beaucoup de choses à faire et à explorer, et aussi au niveau de la biologie délocalisée. Donc, espérons que nous pourrons, au cours de cette période, maintenir un niveau de qualité pour la biologie d'urgence, pour nos patients, parce qu'il y a quand même des risques aujourd'hui. On a l'impression qu'il y a quand même une régression sur cette partie de la biologie qui est quand même au cœur de nos missions. Donc j'espère qu'on va pouvoir, en utilisant bien la technologie, maintenir la qualité des prestations partout en France. Bon, alors sur ça, c'est dans 3 ans, donc on fera le point, si vous le voulez bien, et si vous êtes encore avec nous. En 2021, donc après la fameuse date, enfin comme s'il y a des reports, ça tombera bien. Donc en 2021, et peut-être à Biarritz, si on arrive à organiser ça. Je vous remercie tous, et je vous invite à un dernier déjeuner de travail. Ne partez pas, si votre train ou avion le permet, venez déjeuner avec nous pour la fin de cette session. Et puis je rappelle qu'il y a une 30aine d'entre vous qui ne vont pas à la plage, mais qui vont travailler avec nous cet après-midi sur l'accréditation. Et puis merci aussi à tous les intervenants étrangers et modérateurs qui sont venus partager avec nous leur expérience. Merci beaucoup.